France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cet après-midi notre sélection de grands entretiens d'affaires culturelles que vous pouvez retrouver tout l'été pour garder le lien et pour vous faire entendre ou réentendre la parole d'artistes de tous horizons, de toutes disciplines, que nous avons reçus au fil des mois. Le 12 janvier dernier, mon invité était l'écrivain Tsierno Monenembo. Bonsoir Tsierno Monenembo.
Bonsoir.
Votre nouveau roman, Saharienne Indigo, vient d'être publié aux éditions du Seuil. Il nous donne l'occasion de revenir sur votre parcours, apprendre ce qui nourrit vos romans, la façon dont vous écrivez. Et puis bien sûr, nous parlerons de ce nouveau livre. Alors comme souvent, c'est par le goût de la lecture que vous êtes venu à l'écriture. La lecture, c'était votre sport, Tsierno Monenembo, parce que vous étiez un enfant de conditions fragiles. Et puis vous avez raconté qu'à l'âge de 11 ans, votre père est arrivé avec dans ses bras un certain nombre d'ouvrages. Vous vous en souvenez fort bien, L'Enfant Noir de Kamar Alaï, Black Boy de Richard Wright, La Tête contre les Murs d'Hervé Bazin, Bella de Jean Giraudoux, Premier Amour de Nicolas Tourguenieff. Voilà que ce sont des lectures très différentes, mais ce sont ces livres-là que vous avez lus en entier, ça a été les premiers.
Les tout premiers, j'avais jusque-là lu des chapitres dans des anthologies, mais cette fois-ci, mon père m'a obligé à lire des romans. J'avais 11 ans, et effectivement, ce sont ces livres-là, très différents les uns des autres, d'origine et de thématique, qui ont été un peu mon assise littéraire, en quelque sorte. C'est vrai, et il y en a d'autres que j'ai oubliés, mais enfin, peut-être Bellamy, peut-être autre chose. Mais en tout cas, ces livres-là m'ont beaucoup marqué.
Mais l'obligation de lire, du coup, ça, vous l'avez pris comment?
Parce que c'est mon papa qui me l'a imposé. Il aimait lire. Il écrivait d'ailleurs, mon père. Ouais. Puis il était sévère, il était très dur, mais
ça aurait pu vous dégoûter de la lecture.
Il aurait pu, mais enfin, ça m'a plu. J'étais, vous savez, à cette époque-là, les jeunes de mon âge, ils allaient au football. Et moi, j'étais plutôt un handicapé. On s'est rendu compte il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, que ma mère a eu la toxoplasmose quand elle était enceinte de moi. Donc, j'ai une constitution très fragile. Je ne pouvais pas jouer au football. Mon sport, c'était la lecture.
Mmh. Voilà. Un beau sport. On le verra et on en reparlera plus tard. Vous avez dû quitter votre pays, la Guinée, comme à l'époque 3 millions de vos compatriotes fuir la Guinée dictatoriale de Sékou Touré. Vous aviez alors 23 ans. J'aimerais quand même revenir sur le fait que vous êtes né dans le Fouta de Djallon, une région habitée par les Peuls. Vous avez été élevé par votre Nenembo, votre grand-mère. Pour évoquer cette culture et avant que vous en parliez, j'aimerais qu'on écoute un extrait de l'émission Mémoire d'un continent sur RFI et cette archive où on va entendre parler Amadou Ampateba.
La poésie Peul, elle est très variée. Il y a d'abord la poésie des pasteurs, c'est celle-là qui est la plus riche. Et or, ça, ce sont des thèmes qui parlent de la femme, de la vache. Alors ça, ce sont les deux les thèmes principaux. La vache, la femme. Après, il y a le cheval qui vient. Puis après, le cours d'eau, l'herbe, évidemment, et tout ce qui a trait à l'élevage. Et puis à la description aussi de la nature. Et puis encore, au point de vue rythme, arrive toujours à être presque une transposition. Par exemple, nous avons un poète profane qui s'appelle Malaba Fanta, mais pour lui, c'est ce qu'on appelle la marche de la chèvre. La marche de la chèvre dans la rocaille. Ça fait dans un terrain rocaillé. Ça fait crêpe, 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 crêpe. Alors on dit crêpe, 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 crêpe. Alors lui, ce chant s'est basé sur la marche de la chèvre. Alors, il y en a d'autres dont les poèmes sont basés sur la marche du taureau, du bœuf porteur. Alors ça dépend comme ça. Alors, pour la marche de la chèvre, c'est ce qu'on appelle mergui. Mergui veut dire faire des assonances, mais en allant très vite. Par exemple, il dit « Kuna rindi fuka fatal kulluti e bajong samti hellobe ». Nyande bajong jabi yaltinde sonata ou kordo daro e do kordo. Jaltudo foudi sa bogu yaltirto.
Amadou Ampateba et cette culture et cette poésie, Peul, que finalement, même si vous avez grandi dans cette culture-là, vous la connaissiez pas si bien, Tierno Monenembo. Alors, quand vous avez écrit votre livre Peul en 2004, il a fallu beaucoup travailler.
J'ai fait 10 ans de recherche. Je me suis dit comme ça, par fantasme, j'ai écrit un roman sur les Peuls. Je me suis rendu compte que je ne savais rien des Peuls.
On vous avait rien transmis?
Rien. On m'a transmis l'islam, on m'a transmis la culture française. Je suis plutôt franco-arabe que Peul. Et ça, c'est un gros problème, puisque aujourd'hui, les Peuls ont tendance à croire. Ils se définissent d'abord et avant tout comme des musulmans. Ce qui fait que la culture Peul a été rejetée. Même l'histoire Peul anti-islamique a été rejetée. De Tengela, qui est un très grand empereur Peul, sont très mal connus les Peuls parce qu'ils n'étaient pas des musulmans. Et ça, c'est un problème. L'islam, on l'accepte, c'est fini, on est musulman depuis le 11e siècle. Mais quand même, notre culture avant l'islam doit être préservée. Et cette préoccupation a été faite par Ampateba. Il a consacré sa vie à cela, à nous restituer autant que possible notre culture d'origine. Et ça, c'est rassurant.
Oui, mais vous avez pris le relais d'une certaine façon.
Oh non, non.
Un petit peu.
J'ai pas les moyens, non, j'ai pas cette érudition, je n'ai pas cette culture-là. La culture peut m'échapper beaucoup, je n'y connais pas grand-chose, vraiment. Mais enfin, je me suis quand même un peu ressourcé, grâce à Ampateba.
Et puis, vous avez aussi écrit un livre, Le terroriste noir, paru en 2012 sur un Peul guinéen, Adiba, héros de la résistance en France, fusillé par les Allemands. Alors, on trouve en exergue de ce livre un extrait du discours de Léopold Sédar Senghor à Rome en 1962, lui qui était à l'époque le premier président de la République du Sénégal, fonction qu'il occupa de 1960 à 1980. Je vous propose d'écouter un court extrait de ce discours.
Nous, Sénégalais, nous, négro-africains de langue française, nous proclamons notre participation à cet héritage de Rome que je résumerai en quelques mots. Définition claire des fins humaines, choix lucide des voies et moyens, application rigoureuse des techniques les plus modernes. Vous nous avez apporté à nous, Africains, la raison discursive. Du moins, vous l'avez fortifiée en nous. Nous vous apportons à vous, Européens, à vous, Latins, la raison intuitive par quoi se définit la négritude. La négritude comme compréhension totale du monde, symbiose du sujet et de l'objet par le mouvement de l'image rythmée, du symbole plastique, qui est plus que de l'esprit, expression passionnée de l'âme. Je précise, nous avons apporté, car déjà, nos formes ont informé votre plastique. Nos rythmes ont musclé votre musique. Au matérialisme athée, nous opposons le matérialisme spiritualiste qui s'incarne dans l'histoire et dont le précurseur fut l'arabo-berbère, l'Africain Ibn Khaldoun. Cet élan vital, cette intuition de la foi où sujet et objet se confondent dans une étreinte amoureuse. C'est cela l'africanité, dont la négritude n'est qu'un aspect.
Alors, vous étiez un tout jeune homme hein, quand Léopold Sédar Senghor prononçait ce discours. Vous aviez 15 ans. Alors, vous qui étiez né dans un pays colonisé, un pays qui accède à l'indépendance, un pays ensuite que vous allez devoir quitter pour fuir une dictature, le tout jeune homme que vous êtes, il a encore foi en la politique, en l'action politique. Et vous, d'ailleurs, vous serez aussi proche des maoïstes, vous serez un militant de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Plus tard, vous avez cru à la politique, Tierno Monenembo.
Oui, dans ces années-là, la politique était pour nous, disons, la source même de la rédemption. Parce que nos dirigeants arrivaient, très beaux, très charmants, de très beaux discours. C'est Couturé qui fut mon héros dans mon enfance, qui deviendra par la suite mon pire ennemi au monde. Mais on adorait ces gens-là, Kourouma, Modibo Keïta, Senghor, Oufé Bani. Ces gens-là nous parlaient, ils parlaient de l'Afrique. L'Afrique venait, enfin, après des années d'éclipse, des décennies de domination étrangère. On allait libérer l'Afrique, l'unifier. Et réinventer pas seulement l'Afrique, mais certainement aussi le monde. Puisque la libération de l'opprimé, c'est un peu la libération de tout le monde. Quand l'opprimé se libère, c'est un espoir pour le monde entier. C'est évident, la liberté est totale, ou elle ne l'est pas. Et ça, oui, bien sûr, on arrive à cela. Et c'est à cette époque-là, j'avais 15-17 ans qu'on a arrêté Mandela. Moi, j'étais convaincu que Mandela aurait été en prison pour 2 ou 3 ans. Ensuite, tout serait réglé. Et puis non, il est resté 26 ou 27 ans en prison. Voilà.
Et vous, la politique ou l'action politique, vous l'avez quittée parce que, au bout de plusieurs années, parce que vous vous rendez compte que rien ne changeait ?
Et non, je pense que c'est la politique qui est en train de quitter toutes les belles âmes du monde. La politique est devenue tellement laide. Quand je suis arrivé en France en 1973, c'était la mode du gauchisme. Les maoïstes, les trotskistes font de très belles choses. Aujourd'hui, on en veut aux 60 plus tard. Mais je pense qu'ils ont fait leur boulot. Ils ont secoué la société, la vieille société. Ils ont introduit des notions très belles. La notion de liberté, les liberté d'imaginer, liberté de créer, liberté de parler. Pas seulement dans le texte institutionnel, mais dans la vie. Que la vie soit un discours libre. Et ça, je l'ai vécu. Et les 68 ans m'ont beaucoup appris, franchement, à tout point de vue. C'était une belle leçon philosophique, ces 68 ans. Et maintenant, bon, évidemment, il faut passer à autre chose. À chaque époque, ses mœurs. Mais je ne suis pas du tout fâché avec cette époque-là. C'était une très belle époque. Et la jeunesse, pour la première fois du monde, la jeunesse prend la parole.
Très belle époque, mais alors, la jeunesse prend la parole, la jeunesse prend aussi la plume. Quand vous écrivez votre premier roman, Les crapauds brousses, vous avez dit, après coup, qu'avec un roman comme ça, vous pensiez que le système politique en Guinée allait pouvoir changer rapidement.
Moi, je pense qu'après la publication de mon roman, le régime de secteur allait tomber. Mais je me suis trompé, bien évidemment. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai fait 6 ans. Entre mon premier roman et mon second.
Ouais.
Je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine d'écrire ? Ça sert à quoi ?
C'est la question de Sartre. Que peut la littérature ?
Exactement.
Et votre réponse alors ?
Oh, et puis beaucoup de choses, mais dans le long terme. Et puis beaucoup de choses. Et en fait, c'est la littérature qui fait l'histoire, finalement. Je pense que sans les grandes œuvres littéraires, on n'aurait pas connu les grandes transformations historique et sociale qu'on a vécu depuis au moins le 16e, 17e, 18e siècle. Il n'y aurait pas la Révolution française s'il n'y avait pas eu quand même les philosophes de la Lumière, des Lumières, c'est les Diderot, les Voltaire, les Rousseau. C'est impossible. Ce sont eux qui sont les pères réels de cette révolution, qui est une révolution formidable malgré ses dérives, mais qui a apporté beaucoup de choses. Et en France et dans le reste du monde.
Et puis, pour revenir un petit peu en arrière, Tierno Monenembo, donc vous devez quitter la Guinée, vous passez par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vous arrivez en France, donc vous l'avez dit, en 1973, vous étudiez la biochimie, vous aurez un doctorat dans ce domaine, et vous faites des petits boulots parce qu'il faut payer les études. Donc ça veut dire que les journées sont quand même très chargées, puis il y a le militantisme aussi, et malgré tout, vous commencez à écrire, vous prenez des notes dans un cahier et ça va devenir un roman, ce premier roman que j'évoquais, les crapauds brousses. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire en fait ?
Alors c'est l'exil dans le sens le plus dur du terme, parce que non seulement j'avais coupé le cordon ombilical avec mon pays d'origine, mais cela se passait très très mal en Guinée. Chaque fois que j'ouvrais la radio, on pendait quelqu'un, on emprisonnait quelqu'un, souvent des gens que je connais très bien, ou des voisins ou des parents directs. Et tout cela m'a beaucoup déprimé. À cette époque-là, évidemment, il fallait travailler pour manger. Je balayais dans un supermarché qui s'appelait le Mammouth. Il y avait un supermarché qui s'appelait le Mammouth, ça a disparu.
Ça a disparu, donc on peut le citer. Mammouth écrase les prix.
Ouais, voilà. Il écrase les prix, exactement. Il s'est écrasé tout seul. Et voilà, donc je balayais là de 22h à 7h du matin. Après, vers 8h, 9h, j'avais cours. Finalement, j'ai eu des insomnies. Et je me suis mis à noter des choses dans un cahier. Un cahier qui, au début, était prédestiné à recevoir des travaux dirigés de chimie organique, avec plein de formules de benzène. Et c'est dans ce cahier-là que j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Les crapauds brousses.
Alors, comme vous l'avez dit aussi, après cette première publication, poursuivre l'écriture, ça va pas de soi. Alors, vous êtes naturalisé français, vous devenez assistant à la faculté de médecine de Saint-Étienne. En 79, et on en reparlera dans le cadre de la coopération, vous partez enseigner en Algérie, puis au Maroc, puis vous revenez en France, où vous serez à l'université de Caen, en Normandie, votre ville, maintenant. Et le deuxième livre, c'est pas évident, vous le disiez, 6-7 ans entre le premier et le second.
6 ans.
Alors, qu'est-ce qui fait que finalement vous décidez à dire oui, j'ai encore des choses à dire, j'ai encore des choses à écrire, Tierno
Monenapo? Je me suis posé la question longtemps, à quoi ça sert d'écrire? Et je me suis dit finalement, l'écriture, c'est un peu l'oxygène. Le besoin d'écrire n'est pas un besoin social, c'est un besoin physiologique. J'avais besoin d'écrire parce que c'est cela qui me permettait justement de supporter la vie, de supporter l'exil, de supporter le monde tel qu'il est. Je pense que je me suis rendu compte au fil de l'écriture que quand on met des mots sur les douleurs, sur les plaies, elles deviennent supportables. L'écriture a une fonction thérapeutique. Et je dois continuer. Je pense que c'est cela précisément qui m'a permis de survivre, de supporter beaucoup de choses que je considérais comme insupportables.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cette émission en compagnie ce soir de Tierno Monenembo et nous poursuivons avec votre choix musical. On va revenir dans votre pays puisqu'on va écouter Sori Kandia Kouyaté chanter Conakry. Vous disiez, Tierno Monenembo, que l'écriture vous a permis de penser vos plaies d'exilés, mais je me disais en écoutant Sori Kandia Kouyaté que écouter la musique de votre pays, c'était peut-être plus douloureux, non? Quel rapport vous aviez avec la musique?
Ah, c'était quelque chose de paradoxal. La musique guinéenne a été un peu le cordon qui m'a relié au pays dans les durs moments d'exil. En même temps, cette musique, la plupart du temps, comme c'était la dictature, que tous les missiers étaient soumis au slogan du parti, on chantait souvent ces couturiers dans la musique guinéenne. Mais je l'écoutais quand même à me boucher le nez, en quelque sorte, mais parce que ça me renvoyait à mon pays. La musique est très importante chez nous. Elle définit beaucoup de choses, les identités, l'histoire. C'est par la musique que nous sommes transmises les différentes parcelles de notre mémoire collective. Donc la musique est très importante pour moi, la musique guinéenne est très importante pour moi. Surtout cette chanson qui parle de Conakry, la capitale de la Guinée, ce monsieur qui s'appelle Kouyaté Sory Kanya, qui était le plus grand chanteur guinéen, probablement même africain. Je pense que les deux grands chanteurs en Afrique, c'est lui en tant qu'homme et Myriam Makeba en tant que femme. Et il a eu l'Académie Charles Cross en 1970. Et malheureusement, il a été soumis au dictat de Sékou Touré. Il est mort dans la misère la plus totale. Là-bas, il ne pouvait même pas sortir, faire des concerts à travers le monde, alors qu'il était demandé dans le monde entier. C'est une voix extraordinaire, Sory Kanya. C'est presque une voix d'opéra. Et c'est la famille des grands griots de Guinée, de Kouyaté, c'est les grands griots de la Guinée du Mali, essentiellement. Et donc la musique est très importante pour moi. En général, quand j'écris, j'écoute la musique.
Ah, ouais. Ça vous met dans une certaine humeur ?
Tout à fait, ça m'apaise. Et notamment la kora mandingue, la flûte peul, ce sont deux instruments très, très apaisants, à mon avis. Puis la musique classique aussi.
Et puis, en 2012, presque 50 ans après avoir dû fuir votre pays natal, vous êtes retourné en Guinée, Tiernomonenembo. Vous avez déclaré à l'époque regretter d'avoir quitté la Guinée de Sékou Touré. Vous aviez dit, jeune Afrique, je crois, je n'aurais pas dû fuir. Si la jeunesse était restée, cela aurait été différent. Oui. Et je souhaite que tous les Guinéens rentrent. Oui. Alors ça, c'était au moment de votre retour, mais presque 10 ans maintenant se sont écoulés depuis que vous êtes revenu en Guinée. Quel est le constat que vous faites de ce retour ?
Ce retour est bénéfique pour moi, puisque je me reconstitue en quelque sorte. Je me sens un peu éclaté, je me recompose. Et en même temps, c'est très difficile, les choses n'ont pas changé, les choses n'ont pas bougé. C'est très difficile de sortir d'une dictature. C'est presque impossible. Surtout ce type de dictature-là, stalinienne. Vous savez, la Guinée était un peu le premier pays africain à rentrer dans le système soviétique. Nous avons vécu exactement en parallèle avec le système soviétique. Les Bulgares, les Tchèques, les Soviétiques. Les frontières complètement fermées. La milice. L'espionnage en permanence. Et ça, c'est très, très dur. Et je comprends très bien les Russes ou les Algériens ou les Guinéens. Ils ont vécu un peu la même chose. Quand j'étais en Russie la première fois, j'ai pas connu l'Union soviétique. J'étais en Russie après la chute du mur de Berlin. Quand j'ai vu le policier regarder mon passeport, je me suis dit, voilà, ce sont eux qui ont formé nos policiers à nous. C'était exactement la même manière, le même tic.
Alors, c'est vrai que vous l'avez dit, il y a évidemment eu un grand bonheur à retrouver votre pays, mais ces pays, il a toujours été très présent dans vos différents livres. Tiernomonenembo, à ce propos, et puis aussi en clin d'œil à votre roman Les coqs cubains chantent à minuit, le 15 mars dernier, bientôt un an, je recevais l'écrivaine cubaine Zoé Valdés, qui est exilée en France depuis 1995, qui ne cesse de parler de Cuba, et je lui ai demandé comment elle faisait pour écrire sur un pays quitté depuis si longtemps.
L'écriture, c'est mon pays. Donc, je n'ai jamais abandonné Cuba grâce à l'écriture. Et c'est pour ça que Cuba ne m'abandonne pas. Et puis, j'ai fait aussi un travail, comme elle dit, Marguerite Yourcenar, l'écrivain doit faire ce travail d'attention, d'observation, de comprendre et aussi ce qu'on dit autour de vous. J'ai eu pas mal d'amis qui ont subi des choses et que je ne pouvais pas vivre, parce qu'on ne peut pas vivre tout. Et à un moment, quand on commence à écrire sur ces choses-là, c'est aussi une façon de vivre ce que les autres ont vécu. Le centre de mon travail, c'est ça. C'est quand j'arrive vraiment à écrire sur les autres, avec leur histoire, et à un moment, je suis ces gens-là. Je ne suis plus moi. Par contre, je me rends compte tout de suite de ce qu'il vaut la peine d'être raconté. Quand j'entends une voix, j'entends une histoire, je vois un regard. Parfois, le regard m'a donné tout un roman. Je pense que ce travail d'attention dont elle parle, Yourcenar, c'est vraiment je crois que c'est le vrai mobile de l'écrivain. C'est ça. Pour moi, ça ne peut pas être une autre chose. C'est être très attentive et savoir après traduire la nuit des autres.
Enfin, c'était Zoé Valdez qui parlait de son rapport à Cuba, mais comment est-ce que la Guinée vous a nourri tous ces livres pendant tout cet exil, avant votre retour, Tierno Monenembo? Comment est-ce que vous étiez connecté à votre pays?
C'est parce que moi, si j'avais quitté la Guinée, elle, ne m'avait jamais quitté.
C'est ce que dit Zoé Valdez.
Dans ma mémoire et dans mon cœur. Je suis guinéen, c'est-à-dire, je l'avais dit que tout ce qui concerne...
Bon, votre téléphone ne veut pas s'arrêter, c'est comme ça, c'est pas grave. Bon.
c'est la Guinée qui m'inspire, c'est naturel. C'est à partir de la Guinée que je peux aller vers autre chose. Il faut toujours, le voyage est formidable, mais pour qu'il y ait un voyage, il faut un point de départ. Le point de départ, pour moi, c'est la Guinée. Et c'est le point A, c'est le point zéro. C'est là que je pars. J'ai vécu 40 ou 50 ans dans le monde. Hein. Je suis mondialisé, total, mais la Guinée est le début de tout. Donc, c'est de là que je pars. Pourtant, j'écris sur autre chose. Hein. Ouais. J'écris sur Abidjan, sur le Brésil, sur Cuba.
Sur l'Algérie.
Sur l'Algérie, sur Lyon, etc. Ouais. Mes romans se passent un peu dans le monde entier, mais la Guinée est toujours là quand même.
Alors, c'est vrai, concernant l'Algérie, j'ai évoqué tout à l'heure que vous étiez là-bas en tant que professeur. C'était au début des années 80, 83, 85. Et vous avez... c'est un séjour qui vous a marqué. Vous saviez, avez-vous dit, que vous écririez un jour sur l'Algérie, oui, ce que vous aviez ressenti là-bas. Pourtant, Bled, le livre qui se situe en Algérie, il est publié en 2017. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un roman, un sujet, un personnage s'impose à vous et que c'est le moment d'écrire?
Moi, je m'imaginais, en quittant l'Algérie, que j'allais écrire un roman là-dessus, 2 ou 3 ans après. Finalement, l'Algérie elle-même a été tellement bousculée par les événements que mon sujet lui-même s'est trouvé en pleine bousculade, en quelque sorte. Donc c'est bien plus tard que finalement ce sujet s'est stabilisé dans ma tête, que j'ai trouvé exactement le personnage qu'il fallait. Et il a fallu du temps, parce que l'Algérie aussi est dans une période, dans un tourment extraordinaire. C'est un pays qui a toujours été tourmenté depuis au moins le 19e siècle. Mais c'est un pays que je connais bien, que j'adore. Je suis très attaché à l'Algérie. Plein de mes meilleurs amis au monde pratiquement se trouvent en Algérie. Mais donc, c'est un pays que je pensais pouvoir exprimer à travers cette jeune fille qui s'appelle Soubida. Et voilà, ce roman a été écrit assez tard, mais bon, c'est jamais tard à ma
Non, vie. Mais ça veut dire que ça c'est resté en vous pendant 30 ans.
Oui, bien sûr. Absolument. Tout le temps.
Là, tout nouveau, et on s'en réjouit, c'est Saharienne Indigo. Dans ce roman, nous lecteurs, on va rencontrer plusieurs femmes aux identités assez floues. Je vais pas trop dévoiler de choses. L'action se déroule à Paris, mais aussi à Conakry, dans une temporalité qu'il nous faudra aussi, nous lecteurs, comprendre au fur et à mesure de notre avancée dans le récit. Le point de départ pour vous de ce livre-là, parlons de celui-ci, hein, puisque c'est le tout nouveau, publié au Seuil, c'est quoi? C'est un personnage, justement, une image, un sujet?
C'est un peu les trois. Le sujet, c'est évidemment, encore une fois, la Guinée. Surtout le point le plus douloureux du pays, le Kambaro. Un peu l'équivalent du goulag soviétique chez nous. Et en plus, ce personnage, c'est cette femme. Je voulais écrire un roman sur toute la douleur guinéenne depuis l'indépendance à travers l'histoire d'une jeune fille d'aujourd'hui. C'est une jeune fille qui porterait sur elle tous les malheurs du pays. Et c'est cela, cette Véronique Bangoura. Et cette Véronique Bangoura a une espèce de jumelle ici en France, une femme française qui a vécu en Guinée et qui a laissé un fils là-bas. Et elle entend un jour cette Véronique Bangoura parler au téléphone dans les langues guinéennes et elle s'approche d'elle et essaie de lui parler. Elle la pousse à raconter sa propre histoire parce qu'elle, elle a peur ou elle a honte de raconter son histoire à elle. Pourtant, les deux histoires qui sont parallèles ont vite fait se rejoindre. Ouais. Toutes les deux ont à voir avec le Kambé. Cette femme française a été mariée avec un Guinéen, un ingénieur, qui a été pendu sous ses yeux, et on l'a obligé à laisser son fils en Guinée. C'est ce qui se faisait d'autre.
C'est le fils de la Révolution.
C'est le fils de la Révolution.
On lui dit, hein, c'est plus son fils.
Toutes les Français mariées avec des Guinéens, les Guinéens qui étaient exécutés en Guinée, ont dû être expulsés en laissant leurs enfants au pays. Il y en a qui sont devenus folles, il y en a qui sont suicidés. Je connais en particulier un professeur, j'ai eu une professeur de sciences naturelles qui était mariée avec un ingénieur, un grand ingénieur. Son mari a été exécuté, elle a été expulsée de Guinée. On a gardé ses enfants. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Vous savez, dans ces cas-là, on ne parle pas, on se cache. Il n'y a rien de plus honteux que la douleur.
Alors, c'est vrai que vos héroïnes, et on ne va pas trop en dire, hein, Tiana Monenembo, elles se cachent de beaucoup de façons, mais oui, les histoires, les destins que vous nous racontez sont complexes. Alors je me demandais quand même aussi, puisque c'est aussi l'objet de cette émission, comment ça se travaillait pour vous. Est-ce que vous avez des biographies rédigées pour chacune de vos personnages principaux? Est-ce que vous dessinez ou vous établissez un plan pour le récit? Comment ça vient? Parce que c'est extrêmement complexe au départ.
Je ne dessine pas, je ne fais pas de plan. J'invente des personnages et je laisse guider par eux. Finalement, ce sont mes personnages qui écrivent le roman à ma place. Et surtout dans ce cas-là, parce que beaucoup de choses n'étaient pas prévues dans ma tête. Cette rencontre inopinée rue Mouffetard, et puis qui se passe un peu place Monge, j'ai vécu dans ce quartier-là à un moment donné de ma vie, mais tout cela, c'était pas prévu. Cette Madame Corps n'était pas prévue du tout.
Ah ben pourtant, elle est centrale.
Oui, elle est centrale, mais c'est comme ça, je voulais parler de ce quartier, et c'est elle qui est venue. Et rencontrer cette jeune fille qui s'appelle Véronique Bangoura.
C'est toujours mystérieux quand on n'est pas écrivain soi-même, hein, ce qui est mon cas, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, de dire c'est les personnages qui décident. Mais enfin, très concrètement, une situation, quoi. On entraîne une autre, une scène vous donne envie ou l'idée de la suivante?
Oui, mais ça c'est de l'ordre du subconscient. C'est pas quelque chose de très clair dans ma tête. Quand je finis un chapitre, que je vais me coucher, je me récite plusieurs fois la dernière phrase. Je me réveille avec cette dernière phrase en tête. C'est cette phrase-là qui va faire naître les suivantes. Pourvu que je puisse garder le temps et aussi, disons, la suite logique du récit. Voilà comment je fonctionne. Le reste, je laisse au hasard. Je pense que le roman n'est pas une science, c'est l'ordre du subjectif. L'ordre de l'inattendu, l'ordre de la surprise. Je pense que le premier surpris par ce roman, c'est l'écrivain lui-même. Flaubert disait, j'attends de mes acteurs qui m'expliquent mes livres. Vous voyez, c'est... Moi aussi.
Oui, mais alors là, cette construction très riche, ce roman, ça n'a rien d'indigo, Tiana Monenembo, il mêle différents registres. Il y a quand même une toile de fond qui est une enquête policière, dire, parce que ça arrive très vite, un meurtre, une fuite, une traque, des trafics, plusieurs énigmes sur le parcours de vie des personnages, que ce soit à Paris ou à Conakry. Le genre du polar, il a souvent été utilisé pour raconter justement les travers ou les problèmes de notre société. C'est le cas de Saharien Indigo. C'est un polar aussi.
Oui, oui, un peu. C'est un polar. Les bons polars sont tous, à mon avis, des traités de sociologie. Maigret, c'est la sociologie, plus simple, c'est vraiment la société française mise à nu. Et comme les grands romanciers de romans policiers aux États-Unis, on découvre vraiment le fond de la société américaine, ses travers, tout est dans le roman policier. Le roman policier, c'est le roman le plus moderne, il est né il n'y a pas très longtemps, il est né au XXe siècle, il parle des choses d'aujourd'hui. Des choses modernes. Le policier, là, c'est l'écrivain lui-même qui va espionner, en quelque sorte, la société dans ses confins les plus reculés. Et c'est ça, un peu, ce qui se passe ici. C'est que, à mon avis, c'est toute la société guinéenne, parce que, finalement, tout régime politique est le produit d'une société, c'est cette société-là qui est mise à nu ici.
Et puis, évidemment, cette enquête, elle s'intéresse beaucoup au passé. Véronique, elle dit, entendons-nous bien, Madame Corr, mon passé n'est pas plus énigmatique que celui d'un autre. C'est des mots, ça, un lourd passé, un passé qui ne passe pas. C'est pas de l'or, le passé. Tout le monde en a un. Même moi, je n'en tire pas gloire et n'en ai nulle honte. Je vous en parlerai peut-être un jour quand les mots se seront formés, quand ma langue sera assez force pour les saisir et les recracher. On voit bien que ce qu'elle dit là, tout le monde a son passé, le mien comme un autre. c'est pas du tout le cas. C'est quand même un jeu de chat et la souris entre oui, Véronique et Madame Cor pendant oui, tout au long du livre, Tierno Monenembo.
Absolument, c'est la Madame Cor. Courte raconte cette histoire du Kambi, qui est son histoire à elle, mais comme elle n'arrive pas à le faire, elle pousse en quelque sorte Véronique Bangour à se jeter dans le puits, à toucher le feu avant elle. Mmh. Et Véronique est réticente. Et finalement, elle finit par s'y faire et raconte. Et leur histoire, c'est pratiquement la même histoire. C'est encore le cas. Ils sont tous les deux, toutes les deux, elles ont à voir avec leur vie. Presque, elles sont nées au Kambé. Véronique Bangour est née au Kambé, mais Madame Cor aussi, puisque c'est du Kambé que réellement se dessine la vie qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Si elle n'avait pas été en Guinée, elle n'aurait pas vécu cette vie-là. Et donc, le Kambé l'a redessiné, a refaçonné son destin. Et les deux sont obligés de se parler, et finalement, il s'ensuit un livre.
Et cette mémoire de ce que vous appelez, vous, le Kambé, vous disiez comme une image tout à l'heure, ce goulag à la mode guinéenne, est-ce que c'est quelque chose dont la société guinéenne, sur laquelle la société guinéenne a fait son travail, ou est-ce que votre livre, il est aussi nécessaire pour ça, Tierno Monenembo, de bien dire aux gens ce qui s'est passé dans ce pays?
Non, les Guinéens n'ont jamais fait le travail de mémoire sur le Kambaro. Le Kambaro était non-dit en Guinée. On n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. La dernière fois, j'étais dans un maquis, un bar populaire de Conakry, et un vieux monsieur est venu vers moi. Il m'a dit, monsieur, j'ai fait 12 ans au Kambaro. Il est en train de raser les murs, malade, gigotant de partout. On n'en parle pas. Et ça, c'était grave, c'est extrêmement grave, parce que c'est justement parce qu'on n'a pas parlé du Kambaro que rien ne fonctionne, que c'est en train de se reproduire. Tout ce qui se passait autant de Sektouré est en train de se reproduire aujourd'hui. On vient de donner à Sektouré le nom de l'aéroport de Conakry, sans jamais avoir réhabilité les victimes, sans jamais chercher à retrouver leurs fosses communes. Il n'y a pas eu de tombe en Guinée, ce sont des fosses communes. Ça, c'est incroyable, ça. Un pays qui n'honore pas ses morts est un pays sans avenir.
Quelques instants encore avec vous, Tierno Monenembo, pour peut-être lire un passage de Saharine Indigo à nouveau et Véronique Bangarou qui parle. « Croyez-moi, il n'y aura jamais assez de bouquins et de films pour contenir les conneries des hommes. » Ce n'est pas la mémoire qui nous guérira, mais la drogue dure de l'amnésie, la fin de la fin, le lit douillet du néant. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des conneries. C'est un extrait de ce moment-là du livre. Concernant la connerie des hommes, je crois qu'on peut être assez tous d'accord, mais concernant l'amnésie comme possible remède. Est-ce que vous la croyez ou est-ce que c'est...
Non, je n'y crois pas, moi, mais Véronique Bangour, elle y croit. Je pose un peu... Madame Cor veut restituer la mémoire et Véronique Bangour n'en veut pas.
Elle se bataille contre.
Elle se bat toutes les deux. Et effectivement, c'est difficile de choisir parce que la mémoire, c'est quand même... c'est pas toujours confortable. Mais bon, il faut de la mémoire. Elle est indispensable. Mais Véronique Bangour cherche à oublier. Elle veut oublier tout ce qui s'est passé parce qu'elle a vécu qu'elle est née au Kambaro, elle n'a vécu que des choses très très dures, elle a envie d'oublier. Madame Cor ne veut pas qu'on oublie. C'est ce débat entre les deux qui fait le roman, finalement. Ouais.
On aura compris dans un roman dialectique, Tierno Monenembo, encore une fois, mais il nous reste une minute, mais ce livre-là nous raconte vraiment de très grandes pages de l'histoire de la Guinée, mais aussi des histoires personnelles, intimes. Quand est-ce que vous savez, vous, quand est-ce que vous avez su que le livre était terminé, qu'il fallait plus y toucher? Qu'est-ce qui fait que vous savez qu'un livre est fini?
Oh là là, ça c'est souvent quelque chose de surprenant, parce que le livre il finit tout seul. C'est pas le roman, c'est le romancier qui le finit. Moi je voulais, par exemple, mon roman sur le génocide rwandais, je voulais en faire un roman de 300-400 pages, et un beau jour, pendant que j'écrivais, une phrase est tombée, j'ai dit le roman est terminé. Et il a c'est un roman de 150 à 200 pages maximum. Là, c'est pareil, une fois que le sort du fils de Madame Cor a été réglé, le roman était fini.
Comme cette émission, hélas.
«
Merci à Tierno Monenembo d'avoir été notre invité. Ses livres, Saharienne Indigo et Le terroriste noir, sont respectivement disponibles au Seuil et en poche chez Point. Demain, à 14h, je vous donne rendez-vous avec la chorégraphe Mathilde Monnier. Mais dans quelques instants, vous avez d'abord rendez-vous avec les fictions de France Culture pour la suite de votre feuilleton de l'été, l'adaptation du roman de Vassily Grossman, Vie et Destin, réalisé par Christine Bernard-Sugy.